Chapitre 71. Sur un terrain désormais familier, le voyage de retour fut moins pénible. À l'aller, Nathan avait enrichi la carte existante, noté le meilleur itinéraire et mis à jour son livre de vie. Nietzsche poussa durement ses compagnons. Quel mal pouvait avoir fait Victoria durant leur absence? La côte de Grimney accrochée dans le dos, la magicienne sentait le pouvoir qui en émanait. Avec cette arme, nul doute qu'elle triompherait. Une fois les montagnes volcaniques loin derrière le groupe, Nietzsche sentit de nouveau la présence de Mra. Réticente à entrer dans le cimetière des dragons, la panthère était de nouveau prête à veiller sur les voyageurs et à leur servir d'éclaireuse. Conscient que le temps jouait contre eux, les compagnons marchèrent jusqu'à ce qu'ils n'y voient plus à un pas devant eux. Même là, Nietzsche insista pour continuer à la lueur d'une flamme de paume. Dormant très peu, les voyageurs furent très vite revenus dans le désert aux rochers ocre. Ici, une odeur bizarre flottait dans l'air. Une main en visière, Nietzsche vit qu'un océan de verdure s'attaquait au haut plateau. La forme primitive s'échappait déjà de la balafre. Quand la mesa fut en vue, Mara les abandonna de nouveau pour ne pas trop approcher des humains, mais elle ne s'éloigna pas beaucoup. Sans doute prévenus par des fermiers, les érudits et les mémoristes se massèrent devant l'entrée du canyon pour faire un triomphe aux voyageurs.
« Regardez !»
cria Gloria.
« Elle a une côte de dragon !»
Près d'elle, Franklin soupira de soulagement. Mia congratula volubilement Nathan. Exaltée, elle lui parla de tous les grimoires qu'elle avait lus en son absence. Souriant, le sorcier lui tapota paternellement le dos.
« J'ai utilisé ton mouchoir, cher enfant, un sort vraiment efficace. Grâce à toi, je n'ai jamais crevé de chaud. »
Mia rayonna. Exhibant le fameux mouchoir, Nathan en rajouta une couche.
« Une magie remarquable et hautement rafraîchissante. »
Une fois dans le complexe, Nietzsche gagna la grande salle d'études, écarta des livres empilés sur une table et y posa la côte de Grimney.
« Nous pouvons fabriquer l'arme qu'il nous faut, »
annonça-t-elle. Elle passa les doigts sur l'os de légende, l'étudiant à la lumière des lampes magiques. Fascinés, les érudits et les mémoristes se massèrent autour d'elle.
« Cette côte appartient à un dragon bleu nommé Grimney. Avec elle, je me ferai un arc, puis je tuerai Victoria. Désormais, nous avons une chance d'enrayer un fléau pire que la balafre. Il ne me reste plus qu'à me préparer. Dites à vos chasseurs de m'apporter des flèches et des cordes à arc. Je travaillerai dans ma chambre. »
Après avoir passé une main dans sa crinière blanche, Nathan dévisagea les érudits, avec une préférence marquée pour Mia.
« Avez-vous eu des problèmes en notre absence? Une attaque de Victoria? Un autre Shaxi ?»
Ce fut Franklin qui répondit.
« Selon vos instructions, nous avons défendu l'ouverture de l'autre côté de la mesa. L'objectif était de rendre le complexe inexpugnable.
Mais la jungle continue à s'étendre. »
enchaîna Gloria.
« Elle a envahi toute la vallée et menace les contreforts de la mesa. Certains végétaux s'attaquent même à la falaise. »«
Une croissance infinie !»
grogna Franklin.
« Rien ne peut l'arrêter !»
Mia approuva du chef.
« Toutes les barricades que nous avons érigées, nous les pensions indestructibles, mais la magie de Victoria a fait bourgeonner les planches. Du coup, l'issue que vous connaissiez est devenue une jungle impénétrable. Tenter de l'éliminer n'a donné aucun résultat. Ces broussailles poussent trop vite. »
Voyant que le bois ne servait à rien, précisa Franklin, nous avons érigé un mur de pierre. Pour l'instant, cette défense tient. Sauf si Victoria trouve un moyen de faire bourgeonner les minéraux.
Une solution astucieuse,
approuva Bannon.
Mais temporaire,
lâcha Nietzsche sinistre.
Au fil du temps, les plantes grimpantes traversent même la roche.
De nouveau, elle passa les doigts sur son futur arc, imaginant comment elle s'en servirait.
« Mais je ne laisserai pas ce loisir à Victoria. »
Mia approcha de Nathan et lui tendit un livre à demi carbonisé.
« Nathan, je voulais te montrer. Nous avons ramassé ce grimoire après l'incendie, le soir de l'attaque. J'allais le classer quand j'y ai trouvé une référence à l'arc en os de dragon. C'est une partie des sortilèges dont nous aurons besoin. » « Tu veux bien m'aider à déchiffrer le texte, même si les pages sont abîmées ?»
La jeune archiviste baissa humblement la tête.
« Je n'ai pas voulu utiliser mon don pour restaurer l'encre sans que tu sois là pour m'aider. »«
Ma chère, superviser ton travail sera un honneur. »
Nathan emboîta le pas à la jeune femme.
Tu penses que nous pourrons avoir une bonne infusion en travaillant et quelque chose à grignoter ?
Gloria ordonna qu'on apporte de quoi se restaurer à tous les voyageurs.
Où est passé votre sens de l'hospitalité ? Nos amis sont épuisés. Victoria n'aurait jamais...
La mémoriste se tut, consciente qu'elle allait dire une grosse bêtise. Fatiguée et couverte de poussière, Nietzsche refusa pourtant de se reposer.
« Je dois travailler. Je file dans mes quartiers pour fabriquer l'arc. »«
Je vais t'aider, » dit Chardon.
« Tu me montreras ce qu'il faut faire.
Suis-moi.
La tâche est avant tout magique, mais tu te tiendras prête au cas où j'aurais besoin de quelque chose. »
La gamine approuva de la tête et se mit en route. Dans la chambre, elle remplit la cuvette et tendit un carré de tissu à la magicienne. Quand elle eut fait sa toilette, celle-ci rinça le gant improvisé et le passa à sa disciple.
« À toi maintenant. J'aimerais bien voir ton visage.
Tu l'as vu avant qu'il soit crasseux ?»«
Oui, il y a longtemps. Tu es sans doute une jolie petite fille, mais il faut le prouver. »«
Tant que tu ne me forces pas à porter une robe rose, ça, il n'y a aucun risque. »
Chardon se débarbouilla avec une vigueur qui faisait plaisir à voir.
« Tu es assez propre pour toi ?»
Nietzsche découvrit que la fillette avait débarrassé de leur crasse plusieurs parties de son visage et diluer la suie sur les autres.
« Ça ira pour le moment. Tu peux t'asseoir sur ta peau de mouton et regarder, en silence, parce que j'ai besoin de concentration. »
Chardon agit comme si la magicienne venait de lui assigner une mission capitale. Assise en tailleur, elle ne broncha plus jusqu'à ce qu'une servante entre avec une bouilloire d'infusion, des biscuits et des fruits. Après avoir fait le service, Nietzsche grignotant distraitement, Chardon dévora tout ce qui lui tomba sous la dent. Nietzsche s'assit sur sa paillasse et posa la côte sur ses genoux. Comment en faire un arc ? Passant la paume sur l'os du défunt dragon casse-cou, elle utilisa sa magie pour ramollir la moelle, puis pour lui rendre sa consistance originelle. Au pouvoir que contenait encore la relique, elle ajouta le sien et passa au stade suivant. Très lentement, elle plia l'os selon l'angle requis, puis le dota d'une courbure à chaque extrémité. Déterminer la souplesse idéale fut assez délicat, d'autant qu'elle dut plus d'une fois réparer des fissures provoquées par ses manipulations. Consciente qu'un os si ancien risquait de se briser, elle procéda lentement et perdit toute notion du temps. Quand elle releva la tête, elle vit que Chardon dormait, roulé en boule sur sa peau de mouton. Une enfant pleine de confiance et certaine d'être en sécurité. Pour que ça dure, Nietzsche devrait tuer la maîtresse de la vie. Sans réveiller sa disciple, elle acheva sa tâche et sentit l'arme vibrer d'énergie et de colère, le désir fou d'accomplir sa mission. De son vivant, Grimner rêvait de grands exploits, et il cherchait sans cesse à dépasser ses limites. Post-mortem, il allait en avoir l'occasion. Serrant son arme, Nietzsche songea au tir qui mettrait bientôt un terme à l'invasion végétale de Victoria. Abandonnant les érudits et les mémoristes, Mia guida Nathan jusqu'à une petite salle d'études très bien éclairée. Nathan s'assit sur un banc et fit signe à la jeune femme de venir à côté de lui. Quand ce fut fait, elle posa sur la table le livre à moitié brûlé et l'ouvrit.
« Voyons un peu ce que tu as trouvé, » fit le sorcier. « Plus nous comprendrons de choses et mieux ça ira pour Nietzsche. »
Et il fallait que ça aille, parce qu'en cas d'échec, il ne pourrait pas retourner dans la vallée de Courotte pour demander une autre côte de dragon.
« Nous n'aurons pas de seconde chance, cher enfant. »
Mia désigna du doigt quelques lignes sur une page à demi noircie.
« Je ne sais pas si c'est important, » dit-elle, « mais je connais ce dialecte, et il est question d'un arc fait avec une côte de dragon. »
« Une chose est sûre, ça ne peut pas être une coïncidence. Mais je n'ai jamais entendu dire que les squelettes de dragons avaient une quelconque utilité. Ils sont impressionnants, c'est vrai, à part ça. »
Plissant les yeux, Mia relut le court texte.
« Nous n'avions pas remarqué ce sort parce que nous cherchions un moyen d'endiguer la désolation du buveur de vie. Après ton départ, j'ai cherché des textes liés à la lutte contre les manifestations de ce genre. » Un autre érudit m'a orienté vers cet ouvrage. Lui, il cherchait un remède contre l'impuissance.
Mia baissa la voix.
Il faut du courage pour admettre qu'on en souffre, pas vrai ?
Un remède contre l'impuissance, c'est en rapport avec la restauration de la vie, oui. Mais là, nous cherchons plutôt le contraire.
L'érudit n'a pas trouvé le médicament de ses rêves. Du coup, il a remis le grimoire sur une étagère du couloir avec l'idée de le rapporter plus tard dans les archives. Mais le Shaxi a attaqué avant qu'il ait pu le faire. Certaines pages sont illisibles. Ces lignes parlant d'un arc en os de dragon, j'ai pensé que tu voudrais les voir.
Et tu as eu raison. Mais nous savons déjà que cette arme est puissante. Tu crois que ça traite de notre arc?
Eh bien, ça mentionne le formidable pouvoir que doit détenir l'archer. Hélas, une partie du sort est illisible. Ayant pu déchiffrer quelques mots, je crois qu'il est question de la flèche, et ces informations-là, nous ne les avons vues nulle part ailleurs. Laissant glacer, Nathan fronça les sourcils.
Selon toi, la flèche aussi doit être spéciale? L'arc ne suffit pas à infuser la magie requise?
Je n'avais pas envisagé ça.
Et c'est très décourageant.
Que dit-il d'autre, ton texte?
Le sorcier essaya de lire, mais l'encre était détruite, et Nietzsche n'accepterait sûrement pas de retarder son intervention.
Impossible de déchiffrer ça.
Je peux essayer quelque chose, dit Mia. Quand j'étudiais de très vieux livres, j'ai découvert une méthode de restauration. Mais je ne voulais pas agir en ton absence. Je n'ai jamais fait ça, même si je crois comprendre la magie impliquée.
Mia posa les doigts sur le bord du grimoire, puis y infusa un petit flux de magie. À la grande joie de Nathan, le parchemin reprit une couleur normale et les fragments de phrases illisibles guérirent. Si bizarre que ce fût, il n'y avait pas d'autre mot pour décrire le processus. Impressionné par l'exploit de Mia, accompli presque sans effort, Nathan siffla entre ses dents.
« J'oublie combien de gens ici ont le don, même s'ils ne sont pas formés. Dire que je suis censé être le grand sorcier ?»«
C'est un sort très simple, » souffla Mia. « Absolument pas dangereux. »«
Faire du feu est aussi très simple quand on a l'étincelle. Lorsqu'on ne l'a pas... »
Nathan secoua la tête et se concentra sur les lignes restaurées.
« Oublions mes petits soucis. Que disent ces lignes ?»«
Ça parle d'une flèche convenablement préparée. Et dessous, ça dit qu'une seule sorte de poison est adaptée. »«
Un poison maintenant ? Et de quel genre ?»
Selon la réponse, il faudrait au moins une autre quête interminable avant de pouvoir affronter Victoria.
Et où sommes-nous censés le trouver?
Mia tourna les pages qui contenaient bien une série de protocoles thérapeutiques contre l'impuissance. Hélas, pour neutraliser Victoria, ils avaient besoin d'une magie inverse.
Je vois là une référence au grimoire original que nous n'avons pas pu lire en entier à cause de la coulée de pierre.
Nathan fit un grand sourire à Mia.
« Mais aujourd'hui, tu as ton super sort de restauration. Tu pourras peut-être soigner ces pages-là. »
Mia se leva, prête à tout tenter.
« C'est possible. »
Fatigué par le voyage, Nathan sirota son infusion pendant que la jeune archiviste filait chercher le grimoire récupéré dans la tour fondue. Dès qu'elle fut de retour, ils examinèrent les pages endommagées. Puis, la jeune femme posa les mains dessus, ferma les yeux et bougea lentement les doigts. Peu à peu, la croûte de pierre se détacha, dévoilant des mots jusque-là invisibles.
« Je pensais que nous avions lu tout le sort, » dit Nathan. « Mais ce passage sur la page de droite ?»
Il se pencha, les yeux plissés. Mia continua à nettoyer le texte, heureuse d'utiliser son tout nouveau sortilège. Quand elle eut terminé, Nathan put enfin lire les instructions liées à la flèche capable de tuer l'invocatrice d'un sort de fertilité devenu incontrôlable. La clé de la victoire sur la maîtresse de la vie. Un poison indispensable pour réussir.
« Oh non !»
soupira le vieil homme accablé.